Talim.
Talim.
C'est dans cette tension entre la fluidité d'une langue, la mobilité d'une langue,
Talim.
Et puis les différences de statut qu'elle traverse en tant que langue véhiculaire.
Et peut-être que ce qu'on voit le plus au théâtre vient de l'oreille. Le théâtre n'est pas un art visuel, c'est un art de l'imaginaire.
Talim. S'anime.
Le Sahara est le plus vaste désert du monde. Plus de 9 millions de kilomètres carrés de l'Atlantique à la mer Rouge. Ces paysages contrastés, dunes, montagnes, oasis, ont nourri un imaginaire littéraire riche, porté par des récits d'exploration, des romans et des journaux de voyage. D'abord perçu comme une terra incognita à conquérir, il est ensuite représenté à travers un regard orientaliste, pittoresque ou mythifié. Mais comment des textes, produits dans un contexte d'appropriation politique et symbolique, contribuent-ils à faire exister un Sahara littéraire aussi vaste et mouvant que le désert lui-même? Bonjour et bienvenue sur Talim s'anime, le podcast du laboratoire Talim. Je suis Peggy Cardon et pour ce podcast consacré à la bibliothèque saharienne, je reçois Adrien Baudiot. Il est doctorant à Talim, sous la direction de Sargamoussa, et sa thèse est intitulée « La fabrique du Sahara, représentation et usage d'une bibliothèque saharienne en français, d'Eugène Doma à Théodore Monod ». Bonjour Adrien.
Bonjour Peggy.
Adrien Baudiot, tout d'abord, qu'est-ce qui vous a conduit à faire une thèse de littérature sur les représentations du Sahara et plus généralement du désert ?
D'abord, merci beaucoup pour votre invitation. Je suis touché et ravi d'être ici pour ma dernière année de thèse, puisque je soutiendrai ma thèse le 14 novembre prochain en Sorbonne.
Très bientôt.
Alors,
donc.
Pourquoi avoir commencé une thèse en littérature? D'abord parce que j'ai effectué un parcours de littéraire à l'Université Bordeaux-Montaigne. J'ai validé un master recherche en études littéraires. J'ai eu l'agrégation de lettres modernes. Et à l'occasion de mon master en recherche, j'ai découvert un auteur qui vient de chez moi, du sud-ouest de la France, qui s'appelle Joseph Peyret, qui a eu le prix Goncourt en 1935 et qui a écrit un certain nombre de textes sur le Sahara, dont un texte important qui s'appelle L'Escadron Blanc en 1930. Je me suis intéressé beaucoup à ce texte, aux autres textes sahariens de Peyret, et en tirant le fil de ce texte, je me suis rendu compte à ce moment-là qu'il y avait derrière Peyret tout un continent de textes sahariens.
Est-ce que cette littérature qui se développait à ce moment-là vous a permis davantage d'explorer le désert, le Sahara, autrement? Comment diriez-vous que cette littérature complète ou explore autrement le désert?
Alors, c'est vrai que mon approche de thèse, elle est essentiellement littéraire, même si je m'appuie beaucoup sur des travaux d'historiens de l'exploration, d'historiens qui font de l'histoire globale, de géographes aussi qui essayent de saisir ce que c'est que le Sahara. Mais oui, vous avez raison de dire que mon approche, elle est essentiellement littéraire. Et effectivement, la littérature permet de poser un regard singulier sur le Sahara. Ce qui m'a frappé, c'est que parfois, en allant au désert après avoir lu des textes, je me rendais compte que les voyageurs qui pouvaient être pétris de stéréotypes, de clichés, etc., parfois réussissaient quand même à dire quelque chose de vrai, en tout cas de l'expérience que peut avoir un occidental en foulant la Mauritanie, le Maroc, etc.
Est-ce que vous avez un exemple à nous donner?
Alors, au XIXe siècle, tout d'un coup, l'imaginaire du vide qui caractérisait le désert, qui le caractérise toujours un peu, se renverse dans une certaine mesure, et tout d'un coup, le désert devient un petit peu habité. On se rend compte qu'il y a des Touaregs, des Bédouins, etc., que ce n'est pas le manque absolu et le vide absolu. Et un des grands éléments qui parcourt les textes, c'est de se dire le désert a l'air vide, mais en fait, il y a des présences qui sont cachées autour de nous, qui sont là. Je me souviens en Mauritanie, par exemple, avoir l'impression d'être un peu seul au monde, et tout d'un coup arrive un berger qui était là avec son troupeau, par exemple, c'est aussi bête que ça, et c'est vrai que les voyageurs ont bien réussi à le saisir. Je pense notamment à un voyageur qui s'appelle Eugène Fromentin, qui a écrit un récit de voyage assez intéressant en 1857, enfin, il a écrit un petit peu avant, qui s'appelle Un été dans le Sahara, et on retrouve exactement ça chez Fromentin.
Donc là, on est plutôt dans le récit de voyage, si je comprends bien, au début du 19e. Est-ce qu'on pourrait parler d'un tournant dans l'idée d'une écriture du désert?
Jusqu'à la fin du 18e siècle, en gros, les représentations du désert, elles sont essentiellement négatives. Ce sont des représentations de la Bible, c'est l'espace de l'épreuve, l'espace qui est éloigné de l'écoumène, un espace qui est peuplé de bêtes sauvages à la limite, le grand vide. Et à la fin du XVIIIe siècle, on a une forme de renversement ou en tout cas de complexification des représentations. Le désert cesse d'être seulement l'espace effrayant, l'espace parcouru par les bêtes sauvages, mais devient tout d'un coup un peu plus positif. En tout cas, charrie d'autres représentations. Et c'est vrai que le récit de voyage est peut-être le genre littéraire qui permet le mieux de dire ça, justement.
Alors, la peinture. Ce côté orientaliste de l'époque
tout
qui donne.
Tout à fait. Alors, non, avec des clichés, évidemment.
Oui. Hein.
Mais. Enfin, un certain nombre de stéréotypes, mais je pense en particulier à ce fameux Jeanne Fromentin que j'évoquais juste avant. Chez Fromentin, on a justement des représentations du désert qui se complexifient à mesure que lui se rend dans cet espace. C'est-à-dire qu'il essaye autant que possible d'habituer son œil à un désert qui évolue. Et donc, en essayant d'habituer son œil à un désert qui évolue, il charrie en fait des représentations qui sont assez différentes les unes des autres d'une certaine manière. Il diversifie en fait le regard sans tomber dans la stéréotypie qui pouvait être celle de certains de ses contemporains, Delacroix par exemple.
Et donc dans vos travaux, vous parlez effectivement d'une véritable bibliothèque saharienne en langue française, fruit finalement d'un dialogue avec plusieurs bibliothèques. Vous parlez effectivement de bibliothèques plurilingues, pluriséculaires. Pouvez-vous nous en dire plus sur cette bibliothèque ?
Effectivement, quand je parle de bibliothèque saharienne, en réalité, je fais référence à plusieurs bibliothèques. En tout cas, on peut penser à plusieurs types de bibliothèques. On peut déjà penser à des bibliothèques qui sont concrètes, physiques, qui existent au désert, qu'on appelle les bibliothèques du désert aussi, qu'on retrouve par exemple en Mauritanie, dans une petite ville qui s'appelle Shingeti, dans le centre de la Mauritanie. On a plusieurs bibliothèques dans lesquelles on peut retrouver un certain nombre de manuscrits, des traités juridiques, des écrits philosophiques, etc. Donc ça, c'est une première bibliothèque concrète. On en a une deuxième qui pourrait être l'ensemble des textes, des discours, des représentations écrits par des auteurs qui viennent du Sahara, sahariens, y compris aujourd'hui. Par exemple, d'auteurs mauritaniens. Je pense à un romancier assez intéressant qui s'appelle Beyrouk, par exemple, qui pourrait être dans cette bibliothèque saharienne entendue comme bibliothèque des auteurs venant du Sahara. Pour Hélène Blé, historienne de la géographie, la bibliothèque saharienne, ce sont aussi tous ces textes antiques, de voyageurs arabes médiévaux, par exemple, qui nourrissent en fait les premiers textes des Européens. Parce que quand les Européens arrivent, le Sahara, c'est ce que vous avez dit en introduction, une terra incognita intégrale. Et les auteurs ont parfois besoin d'un certain nombre de supports, de représentations pour pouvoir imaginer à leur tour ce que peut être le Sahara. Et en fait, aucun Européen n'avait écrit quoi que ce soit, ou presque, sur la question. Et donc, ils vont piocher en fait chez des auteurs antiques, Hérodote, des voyageurs arabes, Ibn Battuta, par exemple, etc. Donc ça, je dirais que c'est une troisième sorte de bibliothèque. Et ma bibliothèque saharienne à moi, c'est finalement une étagère, entre guillemets, de ce que Moudimbe, le penseur congolais, a nommé la bibliothèque coloniale. La bibliothèque coloniale, c'est l'ensemble des textes, des discours, des représentations qui ont été écrits, dans son cas, sur l'Afrique pendant la colonisation et qui donnent souvent une image stéréotypée de l'Afrique. Et moi, j'en étudie même une toute petite partie, c'est la bibliothèque saharienne écrite en français.
Oui, c'est ça, en français.
Et dans deux genres en particulier, le récit de voyage, pris au sens large, avec des récits expéditions, d'exploration, des récits de voyage littéraires, et des romans et des nouvelles, des fictions, au sens large. Ce qui me paraît intéressant, c'est que les différentes bibliothèques, elles dialoguent, elles sont poreuses. Typiquement, c'est ce que j'indiquais, hein, les colons, quand ils arrivent au Sahara, ils se nourrissent de la bibliothèque plus ancienne. Et je dirais qu'aujourd'hui, certains romanciers qui viennent du Sahara, par exemple, se nourrissent ou en tout cas dialoguent aussi avec la bibliothèque coloniale. J'ai lu la semaine dernière un roman d'un auteur mauritanien qui s'appelle Moussa Ouldemnou, romancier de science-fiction, qui a écrit un roman en 1994 qui s'appelle Barzac. Et dans ce roman, je suis à peu près sûr qu'il a lu les textes de Théodore Monod, qui était un voyageur, savant, naturaliste du XXe siècle, qui a écrit au moment colonial.
Donc c'est une bibliothèque qui ne s'arrête jamais finalement.
C'est une bibliothèque qui ne s'arrête jamais. C'est peut-être le problème de mon travail, c'est que c'est beaucoup trop tentaculaire.
C'est ce qui m'amène alors d'abord à vous demander si ces bibliothèques, vous avez pu les fréquenter, est-ce qu'elles sont accessibles ?
C'est une bibliothèque qui est essentiellement, disons, métaphorique. C'est-à-dire qu'on y met un peu ce qu'on veut dans cette bibliothèque. J'ai pu fréquenter en revanche une bibliothèque saharienne à Shingeti, donc voir les manuscrits qui étaient sur place, etc., que j'utilise pas forcément dans ma thèse. Puis je suis allé aussi dans une autre bibliothèque saharienne que je n'ai pas évoquée, qui est celle d'une association qui s'appelle la RALA. La RALA, ça désigne la selle qu'on met sur les dromadaires, en fait. Et c'est une association qui est à Paris et qui a construit une authentique bibliothèque saharienne, avec essentiellement des textes savants, scientifiques, de géographes, etc. Moins de textes littéraires, mais tout de même, en fait, ils ont plus de 1000 références, je crois, sur la question. Donc là, j'ai pu y aller, effectivement.
On l'entend. Effectivement, vous avez aussi des références à la fois à l'histoire et à la géographie. Et vous ne vous en tenez pas à ce que vous entendez par une histoire littéraire qui, comme vous dites, peut être parfois poussiéreuse, pour vous citer. Vous plaidez donc, d'une certaine manière, pour un décloisonnement des disciplines, je ne sais pas. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus? Est-ce que votre recherche cherche à renouveler les lectures du désert?
Alors, j'essaye de décloisonner l'histoire de la littérature française. Et je me place dans le sillage d'un certain nombre de travaux qui ont acté récemment que, historiquement, l'écriture de l'histoire de la littérature française, elle s'était faite de manière franco-centrée, au sein de nos frontières nationales, au sein d'un vaste récit national. Elle servait en fait une sorte de nationalisme méthodologique d'une certaine manière. Et donc moi, dans le sillage notamment des travaux de Guillaume Bridet, par exemple, je le cite parce qu'il fait partie de Talim, comme on le sait, j'essaye de proposer une
professeur à la Sorbonne Nouvelle.
Professeur à la Sorbonne Nouvelle, pardon. Et j'essaye autant que possible donc, de sortir de ce franco-centrisme et d'épouser ce qu'il appelle une histoire littéraire transnationale. Et surtout, lui, il parle d'histoire littéraire multiscalaire, c'est-à-dire essayer de diversifier les échelles d'analyse, les échelles d'approche, les degrés en fait, d'approche, en prenant en compte le fait que finalement notre littérature, la littérature en français, la littérature française, elle ne se replie pas sur elle-même, elle est traversée au contraire par toute une série d'influences, de cultures, de langues, etc., qui viennent la complexifier. Concrètement, ça veut dire que j'essaye d'étudier, dans mon cas, ensemble, des auteurs qui ont écrit depuis la métropole, qui parfois n'ont jamais foulé le désert. C'est le cas de Joseph Peyret que j'évoquais en introduction, qui lui a écrit sur le Sahara à partir des témoignages de son frère, qui était médecin militaire, et qui lui a foulé le désert. Mais Peyret était de santé fragile, donc il a jamais voulu vraiment voir de ses yeux ce que pouvait être le désert. En même temps, j'étudie aussi des auteurs qui venaient du Sahara, alors soit parce qu'ils étaient colons, parce qu'à l'époque coloniale, ils avaient grandi là, donc, notamment en Algérie, français. Soit aussi parce qu'ils étaient tout simplement autochtones, entre guillemets, et qu'ils apparaissaient comme les premiers écrivains algériens, par exemple, ou sénégalais de langue française. Et typiquement, dans mon corpus, j'étudie des explorateurs métis qui avaient été envoyés au milieu du 19e siècle par les Français au Sahara, parce qu'ils étaient censés, par leurs traits, entre guillemets, mieux se fondre dans l'environnement.
Le métissage, voilà. Par définition. Quoi.
Voilà, exactement. Et donc, le grand fantasme des Français, c'est de se dire, on va envoyer ces hommes-là découvrir le désert à notre place, parce que voilà, ils parlent arabe, parce que ils sont parfois noirs, etc. etc.
Et peut-être, ils ont peut-être les conditions physiques pour supporter le désert.
Voilà, exactement. Donc, fait, c'est un certain nombre de clichés. Oui. Ce qui est intéressant, c'est que les récits de ces voyageurs, alors, ne sont pas forcément issus du Sahara même, viennent souvent des côtes, etc. Et donc, finalement, leur périple est tout aussi difficile, voire plus parfois, que certains explorateurs européens qui sont associés à des militaires,
bien
qui
sûr.
Ont des armadas
oui,
autour d'eux,
seuls,
etc.
Oui.
Donc voilà. Et typiquement, j'étudie un voyageur qui s'appelle Léopold Panet, qui est un métis sénégalais, et qui, lui, a dû prendre une identité d'emprunt pour pouvoir voyager au désert. Il s'est inventé, alors c'est un des grands motifs qu'on retrouve dans le voyage en Orient, il s'est inventé une identité de voyageur musulman pour pouvoir traverser le Sahara depuis le Sénégal en remontant vers le Maroc actuel. Et en fait, quand on lit son récit, on lit une sorte de roman d'aventure parce qu'il se fait bastonner.
C'est quelle époque ?
C'est 1850 pour Léopold Panet.
Ouais.
1849 pour son voyage, 1850 pour la publication de sa relation.
Thank you. Votre thèse évoque évidemment ou s'imprègne ou peut-être même constitue une nouvelle approche de la géographie littéraire. Cette interdisciplinarité du français au pluriel, telle que Myriam Suchet développe à Tallim aussi. Comment ces échanges avec les chercheurs de Tallim enrichissent votre travail, votre méthodologie ?
Alors, c'est vrai que quand je suis entré à Tallim en 2020, j'ai essayé autant que possible de participer à la vie bouillonnante du laboratoire, voilà, de participer à des projets montés par les uns et les autres. Et typiquement, j'ai suivi à quelques reprises le séminaire de Michel Collot. Je dirais que la pensée de Michel Collot a vraiment travaillé mon manuscrit, puisqu'il propose une géographie littéraire un peu au sens large, en mêlant les approches, la géocritique, la géopoétique. Il inclut aussi parfois des outils d'éco-critique, d'éco-poétique. Donc ça, c'est vrai que ça a alimenté considérablement mon travail. Et puis ensuite, j'ai aussi participé à un projet connexe, disons, qui était consacré à l'éco-poétique des profonds en Afrique. Et j'avais proposé un article sur des figures qui me paraissent très intéressantes de plongeurs oasiens qui allaient désensabler les puits en apnée quand ceux-ci étaient ensablés. Et donc, c'était une sorte de... ça paraît improbable comme dit comme ça, mais donc les Français, quand ils arrivent au désert, ils représentent très souvent ces apnéistes qui plongeaient parfois jusqu'à 30 mètres de profondeur avec leur petite besace pour mettre le sable dans leur besace et pour désensabler le puits.
Pour terminer sur votre méthodologie, sur votre corpus, vous avez donc travaillé essentiellement sur des œuvres issues du moment colonial. Vous avez essayé aussi de déconstruire en fait un récit dominant. Quels sont finalement, selon vous, les auteurs qui soit prolongent, soit contestent cet imaginaire colonial du désert ?
Alors, c'est une question assez large, parce que j'ai beaucoup d'auteurs, des dizaines d'auteurs. Mais,
sentez-vous libre.
Alors, peut-être que ce qui pourrait être intéressant, c'est de repasser brièvement par une petite périodisation, qui permettrait de faire un petit tour de la question. Quand les Français arrivent au Sahara dans les années 1840, à peu près, ils ne connaissent pas grand-chose du désert. Et finalement, assez peu d'auteurs évoquent le désert. Quelques militaires, un militaire important qui s'appelle Eugène Doma, qui publie... un texte qui s'appelle « Le Grand Désert », qui est un texte assez passionnant parce que Doma n'a jamais mis les pieds au désert, mais invente, à partir du témoignage d'intermédiaires locaux, le récit de voyage fictionalisé d'une caravane qui traverse le désert. Ce texte un peu hybride entre le récit de voyage et la fiction, il inspire toute une génération postérieure de voyageurs qui vont au désert en lisant Doma, en fait, en se disant « bah tiens, Doma a dit ci sur l'hospitalité des Arabes, mais moi je me rends compte que c'est pas tout à fait ça, etc. » Et un des grands écrivains qui lit Eugène Doma, c'est Eugène Fromentin, que j'évoquais tout à l'heure. Un peintre-écrivain qui se rend dans l'oasis de Larouat en 1853 et qui écrit Un été dans le Sahara, qui est un peu une sorte de canon, en fait, ou de classique de la bibliothèque saharienne et qui va ensuite être cité tout le temps par tous les voyageurs.
C'est aussi une fiction ?
C'est un récit de voyage.
C'est un récit de voyage. D'accord.
Tout à fait. Et puis, dans cette période, on enregistre aussi deux explorateurs qui me paraissent intéressants. C'est René Caillé, qui est le premier voyageur à se rendre à Tombouctou et à en revenir, qui voyage sous identité dissimulée. Et ce mode de voyage, il va ensuite influencer beaucoup de voyageurs postérieurs, jusque dans les années 30. Donc voilà à peu près pour cette première période. Et autour de ces textes-là, gravitent un certain nombre d'œuvres qui participent aussi de la création de l'imaginaire du Sahara, mais qui sont peut-être moins connus, à l'exception de textes qui n'évoquent pas directement le Sahara, mais qui participent aussi à la constitution de cet imaginaire. Et je pense par exemple à « 5 semaines en ballon » de Jules Verne.
Et, C'est le Sahara vu du ciel.
C'est le titre d'une de mes sections de, de thèse. Et aussi « Les aventures prodigieuses de Tartarin de Tarascon ». Alors ça, c'est hyper intéressant parce que Tartarin, c'est donc ce chasseur de casquettes qui vient de Tarascon, qui souhaite se rendre en Algérie pour aller chasser le lion. Et en fait, il est persuadé que le Sahara, il se trouve juste à la sortie d'Alger. Et donc, il sort d'Alger en courant, etc. Et finalement, il tire un peu dans le vide avec sa carabine. Il s'endort et il se rend compte que non seulement ce n'était pas un lion, c'était un âne qu'il avait visé dans la nuit, mais qu'en plus, ce n'était pas du tout le Sahara, mais voilà, juste le prolongement d'Alger. Donc.
Mais un lion, c'est drôlement imaginaire comme façon de voir le.
Oui, bah alors ça, c'est un des grands motifs. C'est carrément un programme en soi. C'est-à-dire que beaucoup de Français sont convaincus qu'il y a beaucoup de lions au désert. D'autres disent, ben non, en fait, il n'y a pas du tout de lion. Voilà. Bon, ça, c'est, je dirais que c'est la première période. La deuxième période, c'est la fin du 19e siècle et le début du 20e siècle, où là, tout d'un coup, on a une période qui résonne un peu de son impérialisme. Les Français veulent faire du Sahara cet espace qui relierait les possessions du Nord maghrébines aux possessions de l'Afrique occidentale plus au Sud. Et donc, après une première période où le Sahara était encore une barrière, où c'était une frontière de l'extension de sable, la deuxième période, c'est là tout d'un coup une période où on essaye de se projeter en fait dans l'espace. Et à cette occasion-là, on écrit de plus en plus de relations de voyage, de romans aussi qui traitent de la question. Et les profils de voyageurs se diversifient. Alors qu'on avait essentiellement des militaires dans la première période que j'ai évoquée, là, tout d'un coup, on va avoir des journalistes, comme Maupassant, par exemple, des touristes, comme Gide, des personnes qui se rendent au désert pour des raisons spirituelles, comme Ernest Psychary, par exemple. C'est aussi une période où on enregistre l'émergence de ce qu'on va appeler le roman saharien, donc ce sous-genre de la littérature coloniale et exotique qui parle seulement du Sahara, d'une certaine manière. Et ensuite, la troisième période qui m'intéresse, c'est l'entre-deux-guerres, qui est une période où les Français occupent grosso modo le désert. Alors, c'est jamais une occupation totale, parce que pour un espace aussi grand, c'est impossible, évidemment, d'occuper concrètement le territoire. Mais en tout cas, la propagande française est celle-ci. On va avoir toujours beaucoup de récits de voyage, quelques récits d'exploration encore, avec des figures majeures comme Théodore Monod, que j'évoquais, Michel Vieuxchange. Et dans cette période, ce qu'on enregistre surtout, c'est la montée en puissance de romans, de tout un corpus fictionnel. Et le premier roman qui impulse cette dimension-là, c'est L'Atlantide de Pierre Benoît. Pierre Benoît imaginant le fait que la cité perdue de l'Atlantide se trouverait en réalité dans le massif du Hoggar, dans le sud de l'Algérie. Voilà. Et donc à partir de là, il programme toute une tonalité fictionnelle qui va traverser aussi le récit de voyage, les voyageurs se demandant où se trouve l'Atlantide, en fait.
Oui.
Voilà. Ce qui me paraît intéressant dans cette périodisation, c'est que ce qu'on observe, c'est que tout au long de la période, on a une littérature qui, dans son schéma dominant, épouse, en fait, l'évolution de l'occupation du territoire. On a une première période où les textes font état de cette frontière du désert. On a une deuxième période où on a des textes qui promeuvent une sorte d'énergie de l'impérialisme, une énergie de la projection. Et on a une troisième période où on a des textes qui évoquent notamment la question de l'occupation du territoire, du maintien de l'ordre, etc., avec des figures qu'on va en particulier retrouver dans les romans, qui sont les méharistes, donc ces soldats du désert, qui sont censés pacifier, entre guillemets, le Sahara et lutter contre les nomades qui pourraient, en fait, mener des opérations de résistance. Et ce qui me paraît intéressant, c'est que dans ce schéma dominant, souvent essentialisant, écrasant, à chaque période, on a des auteurs qui mettent en avant des contre-discours, qui fracturent en fait l'hégémonie de ce regard dominant. Et parfois, au sein du même œuvre, on peut avoir les deux regards. On peut avoir parfois des regards extrêmement écrasants et d'autres fois, un paragraphe qui vient tout d'un coup abolir ce qui a été dit précédemment. C'est assez étrange, et y compris chez des militaires, par exemple, comme Eugène Doma, qui est un artisan vraiment farouche de l'occupation du désert, de l'occupation de l'Algérie, et qui en même temps s'est fait connaître pour avoir coécrit un ouvrage avec l'émir Abdelkader, qui était le grand résistant à l'occupation française en Algérie. Et donc, Doma, qui est ce militaire qui théorise une colonisation brutale, en même temps, il est dans une sorte de politique de la main tendue, et souvent, je finis là-dessus, ces discours qui contrecarrent le regard dominant, ils viennent aussi d'auteurs qui ont grandi là, par exemple les explorateurs métis que j'évoquais précédemment, ou alors typiquement les premiers romanciers algériens de langue française, notamment de l'entre-deux-guerres. Je pense à un romancier qui s'appelle Mohamed Oulchek, qui grandit dans le sud-ouest du Sahara et qui écrit notamment un texte qui s'appelle « La radia au désert », qu'il a publié dans une revue qui s'appelle Oran, une revue qui a faible diffusion, mais qui est un texte qui vient tout d'un coup proposer une autre représentation sur les fameuses radias. Il y a un grand motif qui traverse ce corpus, moins soumise à toutes sortes de stéréotypes. Ce que j'ai essayé de montrer aussi, c'est pour ça que j'ai voulu circonscrire mon propos à la période coloniale et pas aller à la période postcoloniale, parce que c'est intéressant de se pencher sur la période postcoloniale, évidemment. Mais c'est presque trop... C'est pas presque trop facile, non, je dirais pas ça comme ça, mais il existe des voies au sein même de la période coloniale qui sont des voies déjà situées autochtones, entre guillemets, il ne faut pas attendre la décolonisation pour voir apparaître les premiers romanciers algériens.
C'est très intéressant, effectivement.
Et en fait, il y a toute une génération de gens qui étaient un peu un pied dans la colonisation, un pied dehors, aussi bien qu'ils le pouvaient dans cet édifice colonial qui les écrasait un peu. Et donc, typiquement, un Mohamed Ouchek, c'est ça, c'est cette première génération de romanciers qui écrit des textes à partir des années 1920. On en retrouve des traces avant de ces romanciers, parce que j'étudie aussi quelqu'un qui s'appelle Slimane Ben Ibrahim, qui a coécrit un certain nombre de romans avec le peintre orientaliste Étienne Dinet à la fin du 19e siècle, et qui fait figure en fait d'un des premiers romanciers algériens de langue française. J'ai essayé autant que possible de proposer un panorama en essayant de varier la focale.
Eh bien, Adrien Baudio, merci à vous
merci
pour cet échange passionnant sur votre thèse qui raconte le désert autrement. Et merci à vous, chers auditeurs. Talim s'anime.